Alerte, alerte. Brèche dans les cellules du hangar de la section 9. Nous subissons une attaque par un méca non identifié.
Comment ça, non identifié? C'est pas un plat de moules avarié. C'est LE méca crocodile sanglier à chapeau de paille MK3. Il est LE fleuron technologique de la marine pirate. 2 réacteurs nucléaires, double canon à boules échaînées, un module de stockage de perroquets mécaniques nouvelle génération, 3000 watts.
Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête.
Qu'est-ce qui se passe là? Y a plus rien qui bouge tout d'un coup.
Bon, ben, on y va. Tu vas pas rester planté là comme un arbre. Allez, secoue-toi.
Tu m'expliques?
Ah, ça! Bah, j'ai arrêté le temps. Comme ça, on se casse pépère et on laisse tous ces furieux régler ça entre eux.
Attends, t'as genre de pouvoir, toi? Et c'est maintenant que tu t'en sers?
Mais on était enfermés. Ça aurait servi à quoi que j'arrête le temps, à part tourner en rond encore plus longtemps, Einstein?
Oui, c'est juste.
Et j'ai encore plein d'autres pouvoirs que tu ne soupçonnes même pas.
En même temps, la fois où je t'ai rencontré, tu t'es envolé par la fenêtre, donc je devrais même pas être étonné.
Le samouraï et la soubrette. Épisode hors série numéro 7. Madoka Magica. Rebellion.
Eh bien, bonjour, bonsoir toutes et tous, bienvenue donc dans ce 7e épisode hors-série du podcast Le Samouraï et la Soubrette, un hors-série que l'on va consacrer à un long-métrage, qui est le long-métrage Puellamagi Madoka Magica Rébellion. Donc on vous avait parlé précédemment de la série, rapidement on avait mentionné les films 1 et 2 qui étaient des récapitulatifs, et l'existence donc de ce troisième film, Rebellion, qui se place comme une suite à la série. Donc ce film, il a été sorti en France au cinéma en novembre 2013. Actuellement on peut se le procurer de façon légale, hein, uniquement en Blu-ray. En version physique, il n'y a actuellement pas de version dématérialisée de disponible au moment où on enregistre cet épisode hors série. On va retrouver au scénario donc Gen Urobuchi. C'est toujours animé au studio d'animation Shaft. Et à la réalisation, donc, c'est Yukihiro Miyamoto.
Oui.
En termes de durée, on est sur un tout petit peu moins de 2 heures pour pour ce long métrage. Oui, c'est 2 heures dense. Hein, c'est pas la métaphore de Bilbo pour dire qu'on a tartiné un peu pas assez de beurre sur une tartine trop grande.
Ah non, non, là c'est bien dense,
ouais,
comme il faut.
Ouais, là je crois que ils ont fait fondre la tablette et l'ont versé sur une tartine trop petite.
C'est ça.
Ouais. Et alors du coup, on vous avait parlé rapidement de cet aspect dans notre épisode sur la série. Donc ce film Rebellion dispose d'une version française, donc il est disponible en audio japonais et français, et bien sûr avec des sous-titres français. Est-ce que Xavier, tu peux nous faire un petit synopsis sans spoiler, même si on va vous en parler un petit peu après, les spoilers dans cet épisode, il va y en avoir.
Alors voilà, on va partir du principe que durant l'épisode on va spoiler comme des sagouins, mais là, pour le principe du film, juste pour résumer, on va dire les 10-15 premières minutes du film, on est censé être juste après la fin de la série, et de façon assez inexplicable, on nous présente un monde où Madoka est vivante, est toujours l'héroïne, elle est Impuella Magi, et elle se bat contre des ennemis avec les autres Puella Magi, dont Omura, Kyoko, Sayaka et Mami, qui sont toutes là et qui font les aventures en tant que les meilleurs Puella Magi de tous les temps. Et la vie est belle.
Oui, avec les pouvoirs qu'on leur connaît.
C'est ça.
Ouais. Très bien. Donc du coup, voilà, on vous a mentionné juste avant. Donc là, jusque là, on vous a pas vraiment spoilé grand chose. Par contre, un petit avertissement. Déjà, en termes de visionnage, ce film, même s'il rappelle très rapidement juste le simple concept des Puella qui affrontent des sorcières ou des créatures ou autres ou distorsions, etc. Il faut avoir vu la série. Clairement, si vous allez vous faire malmener si vous n'avez pas vu la série, c'est encore bien pire que Violet Evergarden, Éternité, la poupée de souvenirs automatique, qui était déjà pas forcément évident si on n'avait pas vu la série. Là, vraiment, il faut avoir vu la série en entier. Et nous, en tout cas, on vous conseille de l'avoir vu ou revu assez récemment.
Ouais, vraiment. Ou alors, si vous ne l'avez pas revu récemment, soyez sûr d'avoir une très bonne mémoire de tout ce qui s'est passé et de tous les concepts qui sont abordés
voilà.
À ce moment-là.
Il faut avoir des souvenirs assez frais dans votre tête de la chronologie et des boucles de la série. Ça, c'est important.
Et voir même des actions des différents personnages.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, en plus de ça, bah forcément, on va spoiler le film, comme des sagouins. Et du coup, bah, on va spoiler la série.
Ah oui.
Parce que là, c'est obligé, quoi. Ça va de pair. Hein. Mmh. Vraiment, il faut avoir eu la série pour voir le film. Et du coup, pour vous parler du film, on va devoir vous parler aussi un peu de la série.
Ouais, pour moi, c'est effectivement... Je sais que toi, tu m'avais dit que tu pouvais considérer la série... d'un côté et le film de l'autre, mais moi pour moi c'est vraiment un tout quoi. J'ai du mal à faire une analyse de la série sans considérer Rebellion tellement
oui moi j'arrive
tellement
à
la porte de
j'avais
choses,
peur
tu vois
que
tu dises
dans le sens parler du film sans parler de la série. Non oui effectivement parler de la série sans parler du film c'est
ouais.
Quelque chose où j'arrive à faire la séparation
ouais.
Mais là on est dans l'autre sens et
ouais.
Là ça on va pas pouvoir le faire
ouais,
le
c'est ça, ouais. C'est ça ouais.
Là on va devoir vous parler de la série hein, c'est clair et net
ouais, c'est quelque chose qu'on avait ouais, on en avait parlé lors de la lors de l'épisode sur la série et effectivement j'avais eu beaucoup de mal à me réfréner sur ah mais c'est vrai ça c'est dans Rebellion
voilà.
Faut pas que j'en
bah,
parle
là t'avais eu du mal là aujourd'hui là c'est physiquement impossible
on va spoiler
voilà ou alors sinon vous spoilez pas le film et on va juste vous dire bah regardez-le il est joli
bonne chance effectivement ah, il est joli bah, tiens,
voilà,
qu'est-ce que
voilà.
T'as à dire sur le fait qu'il soit joli toi
mais moi je pensais qu'on concluait là-dessus du coup c'était la fin du hors-série
d'accord
ouais alors c'est parti bah niveau visuel la série était déjà sympa là le film grosso modo c'est la même chose en mieux. L'animation est super fluide, assez impressionnante. On voit qu'il y a du budget derrière. Alors, on ne sait pas vous dire combien, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a le logo de Warner Bros. Au tout début du film.
Ouais, pour la distribution, ouais.
Donc,
ouais.
Il doit y avoir... en tout cas, a priori, il y a eu des moyens de mis derrière. Et en tout cas, ça se voit à l'écran, quoi. Le pognon se voit à l'écran. On a de faibles quantités de 3D d'utilisés, mais qui sont très bien intégrées. C'est très propre. Il y a toi tu voulais parler un peu de l'exubérance.
Bah en gros de façon générale c'est comme tu disais c'est la série en plus donc plus d'images par seconde
voilà
plus d'images par seconde plus de labyrinthe de sorcières complètement qui complètement what the fuck et qui te défonce les rétines plus même de plus de techniques d'animation parce qu'il y avait déjà le côté collage le côté
ouais.
Un peu stop motion mais là t'as en plus des fois des intégrations 3D en plus qui sont encore plus visibles tu vas avoir même des techniques d'animation que j'avais pas vu auparavant avec des côtés soit très crayonnés des trucs qui sont limite à la tu sais des taches de peinture qui évoluent le côté huile qui évolue ils se sont lâchés vraiment
ouais.
Ils se sont lâchés
ouais et puis les perspectives et les parallaxes aussi
oui ben moi qui sur le côté les scrolling les,
je
les...
l'avais déjà noté dans la série
ouais,
et là
ouais.
Ils ont dit ah écoutez il y a ce mec là il a bien aimé on va en mettre plus
ouais c'est ça c'est à dire que en gros le principe de la parallaxe c'est de faire en gros défiler plusieurs bouts de décor à des vitesses différentes pour simuler un mouvement du décor ou du point de vue là ils en font dans tous les sens avec énormément d'éléments de décor non le film c'est un tourbillon vraiment
ouais.
C'est là dessus hein.
Ils se sont lâchés aussi au niveau de la représentation visuelle des transformations
ouais.
Et des pouvoirs des personnages
ouais.
Avec des combats qui sont complètement dingues.
Ouais, le combat de Pouet la Magie jaune contre Pouet la Magie noire.
Mais tout le monde sait que c'est la noire la meilleure.
Bah pourtant, elle s'est fait taper.
Non,
voilà.
Mais c'est.
Elle s'est fait taper.
Écoutez, tu l'as dit toi-même, ce monde est étrange. À quel moment Mamie peut battre Moura?
Eh bah, tous les jours, apparemment. Elle s'est fait taper. C'est
non,
tout.
Non, mais Moura était fatiguée ce jour-là.
Oui, bien sûr. Oui.
Elle n'arrivait pas à digérer son gâteau. En même temps, c'est du gâteau au fromage.
Si tu
comment
veux.
Tu peux manger ça
ok hein. Alors mauvaise foi mise à part c'est un délice en termes d'animation de représentation visuelle et d'inventivité au niveau du combat ce combat là en particulier et l'issue est vraiment inattendue
le fond
bout en
et
bout.
La forme
ah c'est, voilà. c'est incroyable surtout que c'est un combat qui a du sens
ouais.
Donc c'est vraiment très 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 intéressant sur le côté transformation C'est vraiment un film, malgré toutes les thématiques dont on va parler, certaines vraiment très sombres, c'est un film.
Le setup, c'est de la Magical Girl.
C'est fait par des gros fans de Magical Girl, parce qu'en termes de transformation, c'est parmi les plus flamboyantes que j'ai jamais vues.
Ouais.
Après, je suis pas un spécialiste de Magical Girl, faudrait demander à quelqu'un qui en a vu plus que moi, mais là, j'ai l'impression qu'en termes. On a bien poussé les potards, et c'est. En gros, l'esprit du film, que ça soit au niveau visuel ou au niveau de ce qu'on
dira
plus tard.
Oui, non, mais ils ont coché les cases. Hein,
on pousse les potards à 11 pour tout, quoi.
Ouais. Du coup, mais tu vois que ça nous donne quand même des jolis combats. Donc, final, voir une petite scène de transformation, est-ce que c'était si terrible?
Ah, c'est pas. Le problème, c'était pas la scène de transformation. Ouais,
ouais.
J'ai trouvé ça artistiquement incroyable.
Ouais.
Mais voilà, en termes de représentation, ben, ça reste des filles mouées en tutu.
Qui se transforment, quoi.
Des filles mouées en tutu, quoi.
Il faut préciser que, du coup, on a revu, du coup, le film avec, sur un écran, du coup, UHD, de bonne dimension. Je dois dire qu'au final, c'est peut-être bien, c'est peut-être une bonne chose que ça soit pas dispo en démat et uniquement en physique, parce que du coup, si vous le regardez en, donc avec le coffret ou en chopant par vos propres moyens quelque chose qui a été extrait du coffret en bonne qualité, bah ça rend honneur au film, quoi. C'était visuellement complètement fou. On a mis un petit point, enfin un bémol, pas vraiment un bémol, mais disons que la série elle est scalée, le film aussi, et le film a repris le concept visuel très moé de la série. Ils n'ont pas complètement transformé le design des personnages, le style graphique. Donc, voilà, c'est la même affaire.
Voilà, malgré tout ce que la série et le film ont à raconter, si tu n'arrives pas à passer l'obstacle, ce sont des jeunes filles en tutu, tu n'y arriveras pas.
Voilà. Et puis les proportions des visages, le style un peu crayonné des contours, tout ça, voilà, c'est du plus, mais sans retransformer toute la base, quoi. On reprend le concept. Donc soyez prévenus. Et donc, comme pour le scénario, on retrouve une personne connue à la composition, donc Yuki Kajiura, qui s'était déjà occupée de la série. Il y a des reprises de pistes qui viennent de l'animé. On a aussi des réorchestrations de leitmotivs existants qui sont adapté à d'autres styles. Et on a aussi des pistes originales, même si pour le coup, j'en ai pas spécialement là en tête qui m'est marqué.
Alors moi, en piste originale, notamment, il y a attention giga spoil, quand Moura se transforme en sorcière, toute cette piste-là, je l'avais jamais entendue auparavant.
Ouais, mais t'arrives à la réentendre là, dans ta tête?
Moi, je
m'en souviens pas.
Je peux pas te la chantonner si c'est la question.
Pas forcément la chantonner, mais si tu te concentres, est-ce que dans ta tête tu peux la réentendre?
Ouais, je vois.
Moi, elle m'a pas. Il faut que je revoie le passage en fait.
Bah, faut dire que c'est.
Ça nous implique tellement.
Comme on a dit, le film est vraiment dense.
On était concentré sur ce qui se passait.
C'est un moment du film où vraiment en termes d'explication, faut pas cligner les yeux.
J'avais pas assez de temps CPU à accorder à l'acquisition audio.
Mine de rien, c'est là où la VOST est un peu pas un problème, mais,
ah oui,
c'est,
non,
un,
mais...
c'est un désavantage, quoi.
Ah non, mais
le fait de devoir lire en même temps,
c'est un
désavantage.
De toute façon, il faut être objectif. Le fait de devoir lire, tu donnes du temps de cerveau à la lecture, et en plus, tu concentres tes yeux sur certaines parties de l'image, et c'est un temps que tu passes pas à regarder tout le reste. Ça c'est clair et net. Pour le coup, faut l'admettre.
Oui, voilà. Ouais. Donc, il y a au moins cette partie-là. Il faudrait que le fameux combat entre Mamie et Omura, je pense que c'est une musique que j'en ai pas entendu auparavant. De toute façon, il n'y avait pas vraiment eu de réel combat entre Puella Magi auparavant.
Pas à ce niveau-là, quoi.
Pas à ce niveau-là. Ah,
c'était avant, elle se tapait du bout des doigts.
Il y a eu des escarmouches, notamment entre Mamie Omura déjà.
Ou entre Sayaka, et Sakura Kyoko.
Ouais, voilà. Mais, pas à ce niveau-là, quoi.
Ouais.
Donc, je pense que je serais très étonné que ce soit un titre qui soit dans l'original.
Ouais. Pour le coup, je connais bien l'OST d'origine de la série. Quand j'en ai parlé, il m'avait beaucoup touché, je l'ai beaucoup écouté. Et c'est vrai que j'ai pas non plus l'impression que pendant les deux tiers du film, je n'entende que des musiques existantes. Donc il faudrait voir la proportion, mais il doit y avoir pas mal de musiques originales. Du coup, bon, on a commencé à parler de sorciérisation, par exemple. En termes de setup, pour en dire un petit peu plus, Omura en fait se pose des questions sur ce monde qui l'entoure, parce que comme tu l'as dit, c'est un petit peu bizarre, on est dans la suite directe de la série. Madoka ne devrait plus exister en tant que personne, mais est un concept. Les personnes autour d'elle, du coup, à la base, c'est vrai, étaient des personnes disparues. Mais éventuellement, le fait que, du coup, Madoka ait fait le choix de devenir un concept et de protéger les Puella des sorciers, du fait de devenir des sorcières.
Attention, tu vas trop vite pour les gens.
Dans le passé comme dans le futur, on peut se dire qu'effectivement, pourquoi pas, au final, peut-être qu'elle ne serait pas vraiment morte, qu'elle pourrait exister. Mais c'est bizarre parce que, du coup, elle se dit, mais comment je pourrais avoir les deux en même temps?
Ouais.
C'est bizarre.
Voilà, en gros, ouais, enfin là, t'arrives au. C'est la première origine, c'est le fait que, voilà, à la fin de la série, t'es censé avoir Madoka qui est devenue une sorte de divinité et toutes les autres Puella Magi qui sont mortes et il n'y a que Omura qui reste.
Voilà.
Et il n'y a plus de sorcières. Vu que Madoka a supprimé a fait en sorte que les Puella disparaissent juste après être vaincus et ne se transforment pas en sorcières, ce qui était à la base le plan des incubateurs, sont les petites bestioles
chats de l'espace,
les chats de l'espace, les petites bestioles mignonnes que l'on voit partout. Omura, en fait, dès le début, se dit qu'il y a un conflit entre au départ, il y a un conflit entre le comportement des gens autour d'elle et ce dont elle se souvient. Elle pense pas d'abord, au côté ouais, il y a une incohérence entre ça et ça. D'abord, c'est les comportements sont bizarres.
Oui.
Là, quand elle va voir Kyoko, par exemple, elle se dit c'est pas le comportement que j'ai dans le souvenir que j'ai de toi.
Oui.
Il correspond pas à celui d'une lycéenne.
Mais tu m'as dit que ce serait pas intéressant de retracer tout le cheminement. Du coup, je résume quoi. Effectivement, au début, ça démarre en mode suspicion, de sensation étrange. Au début, elle en parle à Sakura Kyoko en mode juste. Il y a pas un truc bizarre, même pas vous vous comportez bizarrement. Il y a pas un truc bizarre. Et effectivement, ça progresse jusqu'à ce qu'elle en vienne à retrouver des souvenirs et à se dire alors ok, que vous soyez en vie, pourquoi pas. Que Madoka soit une personne existante, pourquoi pas. Parlons les deux en même temps.
C'est pas possible.
C'est vraiment trop beau pour être vrai et c'est un paradoxe quoi. Il y a un truc là. Donc et puis du coup en fait elle en vient à il y a pas vraiment de remise en question pour elle. Du coup elle soupçonne qu'on la manipule ou en tout cas qu'on les manipule.
Ouais. D'abord qu'on les manipule.
Ouais.
Parce que elles sont toutes dans le même bateau. D'ailleurs c'est un cheminement d'enquête. Je sais que ça va te faire hurler, mais qui est relativement classique, où on va dire d'abord j'observe qu'il y a un problème, j'essaye de voir ce qui va pas, quel est le détail qui colle pas, et Omura fonce vers le détail qui ne colle pas et qui est le plus évident pour les spectateurs.
Oui, bébé.
Voilà.
Oui. Mais pourquoi je hurlerai?
Parce que j'ai dit que l'enquête était plutôt basique.
Et du coup, je vais hurler.
Hors antenne, tu as hurlé. Quand j'ai dit que c'était une enquête plutôt classique.
L'enquête, non, mais l'enquête en elle-même est plutôt classique.
Ah, d'accord, mais pourquoi tu m'as créé la dernière
fois? Non, je t'ai créé, que je t'ai dit, c'est que ça représente à peine un tiers du film. Tu disais que c'était classique en termes d'histoire.
Ouais,
je suis pas d'accord.
En termes de cheminement d'enquête,
le cheminement de l'enquête est classique.
Ouais,
mais
ouais.
Ce que raconte le film n'allait pas du tout.
Oui, ok.
Voilà.
Ouais.
Mais non, oui, l'enquête, en même temps, c'est le concept d'une enquête, c'est t'as pas la réponse d'un coup sous les yeux, sinon t'enquêtes pas. C'est d'abord tu dis tiens, chose étrange, essayons de la comprendre et de retracer le cheminement pour arriver à une conclusion logique.
Bah, le truc c'est que en gros la conclusion de l'enquête qui dit que en gros c'est clairement c'est en fait c'est Omura, c'est Omura qui inconsciemment a créé ce labyrinthe. C'est pas un tiers du film. Cette conclusion là on l'a aux deux tiers du film plutôt. C'est voilà.
Oui, non, mais
donc c'est deux tiers du film.
Le setup
bref.
D'enquête, bref, exactement. En tout cas, comme le dit l'adage, hein, lorsque vous avez éliminé l'impossible, hein, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité.
En tout cas, c'est autant l'enquête, je la trouve relativement basique, autant je trouve que l'histoire, elle est vraiment... elle est racontée d'une manière vraiment très, très intéressante en fait. C'est que, donc au début, nous en tant que spectateurs ayant vu la série, on se doute bien qu'il y a un problème et on pense en savoir plus que les protagonistes. En tout cas, on a un peu on a les mêmes doutes qu'Omura.
Vous êtes mignon.
On a les mêmes doutes qu'Omura et on pense, et en tout cas, on se dit bon, elles n'ont pas remarqué qu'il y a un truc qui ne va pas, mais nous on l'a vu quoi. Et au fur et à mesure, en fait, ça, le point de vue narratif progresse à tâtons, en fait, où on pense comprendre la même chose que les personnages, jusqu'à ce qu'on se fasse complètement dépasser et qu'on ne on soit même pas capable de prédire ce qui va se passer après.
Je suis assez d'accord avec toi, et du coup, j'embraye sur ce que je voulais dire sur l'histoire. C'est vrai que l'histoire est assez surprenante, déjà par rapport à la série.
Ouais.
Parce qu'après ce qui s'est passé, on s'attendait pas forcément à une pas une telle conclusion, mais un tel rebondissement. Et puis même l'histoire est parfois surprenante au sein même du film, parce que comme tu le dis, on est là en mode ah d'accord, mais alors du coup il devrait pas être là, et que du coup c'est sûrement qu'il s'est passé ça, puis en mode ah merde, ah non, ah pas du tout. Et ouais, on se fait un peu malmener. On va y revenir un peu plus tard, mais le film est assez exigeant, faut pas s'endormir devant, quoi, faut être concentré.
Ouais, c'est comme on l'a dit, hein, c'est un film assez dense, c'est un film qui aime bien jouer avec le point de vue de son spectateur. C'est marrant parce que voilà, c'est la même session, on a enregistré par exemple
Perfect Blue.
Alors les procédés sont très différents. Hein, parce qu'on n'est pas sur du montage ou ce genre de choses, mais clairement le but, en tout cas du réal, peut-être aussi du scénariste, c'était vraiment de jouer avec le spectateur, avec ce qu'il pense savoir.
Ouais, la perception du réel qu'on a.
Très intéressant.
Ouais. Sauf qu'au lieu de jouer sur les éléments de montage, on joue sur la mythologie de cet univers.
C'est ça.
Encore une fois, très très important d'avoir vu la série et que vous. Alors, si le visionnage n'est pas récent, que les souvenirs le soient, quoi.
Oui, clairement, c'est ça. Là, voilà, pour moi, c'est ça reste peut-être un des plus gros défauts du film, qui est
il fera aucun pas vers nous.
Ça peut être aussi montré comme une qualité pour pas mal de personnes. Mais moi, je trouve que c'est quand même, en termes de porte d'entrée, j'ai rarement vu plus inhospitalier.
Ouais, qualité ou défaut, chacun est juge. Mais objectivement, ça a l'air d'être un parti pris, en tout cas.
Ah bah, en tout cas, c'est. Pas comme Sucker Punch, on voit qu'il a fait exprès, quoi.
MDR.
C'est une
parlons de Japanimation, monsieur.
Exactement.
Du coup, c'est vrai quoi, il est assez exigeant, il faut être concentré devant, il faut avoir une bonne connaissance, comme on l'a dit, de la chronologie de la série, et puis même des boucles qui sont déroulées, parce que notamment des suppositions d'Omura se basent sur le fait que, alors attends, s'il y a cette personne-là, ok, mais il ne peut pas y avoir celle-là, ou alors pas sous cette forme,
voilà,
etc. Il
faut bien se souvenir à quel moment est mort tel personnage,
voilà,
qui a rencontré tel personnage à tel moment.
C'est ça. Et puis comme dans la série, il y a des boucles et que ça ne se passe pas pareil à chaque fois.
Et vraiment bien comprendre ce qu'implique le vœu de Madoka à la fin.
Ouais. Du coup... je pense qu'on peut aller, sur les thématiques, mais ouais,
vas-y.
Nous, on s'apprêtait à le regarder un soir un peu tard, après avoir vu d'autres trucs. Après avoir revu d'ailleurs quelques épisodes de Madoka, quand même on les avait vus récemment tous les deux,
et ben c'était bien de les revoir,
c'était une bonne chose. Et c'était une bonne chose de remettre au lendemain le visionnage du film pour être bien frais devant.
Oui.
Bon, du coup, on a déjà commencé un petit peu à en parler de tout ce qui est les vœux, les thématiques.
On attaque directement par la fin.
Ouais, je sais pas, je pense quand même qu'on peut repartir sur le premier point, parce que c'est intéressant, ça reprend un peu un concept de la série.
Émotions ou règles?
Non, les règles, ouais. Les
ok,
règles.
Vas-y.
Dans la série, on avait déjà un petit peu cette opposition entre les règles établies et les intérêts personnels. C'est cette dualité, cette dichotomie. Et c'est complètement repris dans le film, hein, pour le coup.
C'est un peu ce qui a mené Omura, sa transformation de en gros gentille fille à couette à lunettes,
ouais,
à
maladroite
personne ultra déterminée, etc. quoi. Pour moi, la question de l'alignement règles les règles du monde par rapport à l'intérêt personnel, il est central dans le film. C'est même le thème principal, vu que littéralement le dernier dialogue entre Omura et Madoka, c'est Omura qui demande à Madoka si elle est prête à faire passer les règles de ce monde et à sauver le monde entier avant ses intérêts personnels. Ce à quoi Madoka répond oui, et Omura répond dans ce cas-là, tu seras mon ennemi, parce que c'est vraiment, enfin, parce que dans son fort intérieur, elle sait que c'est pas son cas,
parce
quoi.
Parce que c'est pas ce qu'elle vient de faire, en fait. Parce qu'elle vient de faire, Omura vient de faire l'inverse, et du coup, le fait que Madoka lui confirme qu'elle fonctionnerait pas comme ça, elle dit bon, bah tôt ou tard.
Elle a fait passer son choix ultime, c'est de faire passer son intérêt personnel. Quand bien même ce serait le fait d'avoir Madoka auprès d'elle, avant les règles du monde entier. Ouais.
Cela dit, moi, ça, ce point-là, je le trouve central, mais je ne trouve pas que c'est le principal. Pour moi, le principal, c'est l'autre point qu'on voulait aborder. Alors, pour un petit rappel, les émotions étaient centrales déjà dans la série Polyamagi Madoka Magica, puisque les émotions, l'énergie dégagée par ces émotions en divers instants, donc notamment au moment d'émettre son vœu et au moment de se transformer en sorcière, permettait aux incubateurs de la récolter et donc d'entretenir l'univers. Et là, du coup, on reprend bien sûr ces concepts. Et il y a une représentation qui est assez intéressante, qui est en fait l'amour de qu'Omura éprouve pour Madoka, qui est du coup le moteur de ses actions, mais qui sont pas forcément des bonnes actions, et qui change un petit peu de la représentation de l'amour un peu pouvoir de l'amitié des animés qu'on attend à savoir, qui est toujours vu comme quelque chose de sensiblement bon. Mm-hmm. Et du coup, on a une opposition là entre l'amour du coup qu'avait Madoka, qui l'avait conduite à faire son propre choix, qui était une représentation très religieuse, je guidais son troupeau de brebis, quoi, avec l'amour d'Omura, qui est un amour beaucoup plus en fait sentimental, qui est les sentiments envers une personne
proche.
C'est,
je suis même pas sûr qu'il y ait un côté guidé dans le comportement dans le comportement de Madoka, mais vraiment de prendre soin et de se sacrifier pour, quoi.
Ouais, je répondrai, appelez ça comme vous voulez, monsieur Miles, les faits sont là.
Elle guide personne, hein. Très honnêtement, elle guide pas grand monde. Limite, c'est comme dans la...
Je dis, appelle ça comme tu veux, prendre soin d'eux, si
non,
tu préfères.
Ce que je veux dire, c'est comme dans la série, Madoka, c'est presque le personnage avec le moins d'action du film aussi, quoi.
Et du coup, on était d'accord pour dire que ce qui découlait dans le film, au final, en fait, c'était la suite logique de ce qui avait motivé leur choix de vœux respectifs dans la série.
Et surtout de la manière dont elles l'ont fait. Parce que finalement, Madoka, par son côté très indécis, a quand même pris énormément de temps et a pesé le pour et le contre pour faire un vœu qui s'est révélé très, on va dire, très extrême. Là où ce qui a motivé Omura pour faire son vœu et donc caractériser son pouvoir a été la satisfaction d'un désir immédiat qui était « je veux revoir cette personne qui est en train de mourir sous mes yeux ». Et ouais. Ça, finalement, ça correspond aussi à des vertus classiques qu'on a dans le religieux, avec le côté, voilà, la patience sera toujours récompensée, là où, en fait, quelqu'un qui est, tout ce qui est montré comme impatient ou impétueux ou en tout cas qui va vouloir des choses vite, c'est censé être du mauvais côté, entre guillemets, de la barre morale. Après, chacun se fera une idée par rapport à ça, mais en tout cas, du côté religieux, c'est clairement, ça a toujours été ce qui était enseigné, quoi.
Ouais, bah pour le coup, ouais, moi je vois pas ça comme il voudrait que je le
oui,
vois.
Mais
en
tout cas.
Oui, mais ça reste clairement de un autre amour, hein, l'amour qu'Omura a pour
oui,
Madoka.
Parce que tu es un impie insauvable.
Ah, pardon. Quitte du coup en fait à conduire Omura à se placer au-dessus de Madoka pour la protéger des machinations des incubateurs.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se retrouve, comme je te disais pendant le film, à avoir des logiques assez cyniques qui ressemblent à celles des incubateurs à la toute fin.
J'ai trouvé ce parallèle intéressant. Surtout que du coup, à la fin, les incubateurs, grand bien nous en fassent, pour le plus grand plaisir des spectateurs, sont en sale état.
C'est sûr qu'il n'y aura personne pour les plaindre.
Voilà, et du coup, c'est vrai que pour le coup, Omura se retrouve vraiment presque comme l'antagoniste, quoi, au final. Parce que les incubateurs, comme on les voit à la fin, ils sont, enfin, ils s'en foutent, quoi. Ils ne sont plus
moi,
en danger.
Pour moi, il n'y a pas de presque. À partir du moment où elle se désigne elle-même comme le diable et qu'elle désigne les personnes qui se mettront en travers de son chemin comme les ennemis, et on ne peut même pas dire presque antagoniste. c'est devenu le méchant.
ce qui est cool là-dedans, c'est que du coup, ça, c'est des choix qui sont quand même assez surprenants et assez couillus de la part du film, mais qui ne sont pas des non-sens.
Moi, c'est un...
vis-à-vis des vécus des personnages.
Pour moi,
c'est une
fin qui est surprenante, mais logique, ouais, qui respecte les personnages. Même
et c'est cool. C'est couillu en tout cas. En tout cas, c'est bien trouvé, quoi. D'avoir fait des choix qui peuvent nous surprendre et qui sont pas ce qu'on attendait d'une suite à la série, tout en se plaçant complètement dans sa mythologie et dans les caractères de ses personnages.
Même, je me souviens qu'au premier visionnage, j'avais pas trop compris le pourquoi Sayaka savait tant de choses, c'est-à-dire comment elle savait pour comment elle était censée savoir pour les sorcières, etc. Et effectivement, regarder la fin de la série m'a donné deux ou trois clés. Mais une fois de plus, ça reste. Je ne sais pas si c'est la manière dont le scénariste veut faire les choses, mais il te laisse faire les points entre les événements, quoi.
Oui, bah après c'est...
Il te dit pas de façon explicite ce qui se passe, quoi.
C'est un phénomène normal de laisser les spectateurs se construire leur imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire collectif, hein, autour d'œuvres de fiction. C'est juste que la proportion varie d'une œuvre à l'autre. Et là, on n'est clairement pas dans le scénariste qui te déroule le truc, ouais, sous les yeux, quoi. Il va falloir simplifier.
Et puis en plus, c'est, ben, le fait de laisser les spectateurs faire le point entre chaque, ça donne un univers qui est très, très profitable pour les gens qui aiment théorie craftée. Très fertile pour tout ce qui est théorie craft. C'est-à-dire des gens qui vont dire, mais... Finalement, à la fin du film, c'est quoi les règles du monde de Omura, quoi ?
Par exemple.
Il y en a
par
plein
exemple.
De possibilités.
Du coup, si on devait conclure sur nos expériences de visionnage, parce que je pense que conclure sur ce que raconte le film, c'est un peu compliqué.
Regardez le film déjà pour savoir ce que ça fait. Pour répéter, c'est un film qui est vraiment très, très exigeant, mais qui est exigeant envers le spectateur, mais exigeant aussi envers lui-même, vu la qualité de ce qui est montré, vu les parties pré-artistiques qui sont vraiment très forts. Je repense là comme ça à toute la partie où Kyoko et Omura font un tour en bus, et ben artistiquement ça envoie du pâté, c'est très 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 impressionnant, et voilà quoi. Voilà, c'est non seulement un film qui en met plein les mirettes, et un film qui est très gratifiant pour qui a vu la série et qui a bien compris en tout cas l'univers et la chronologie de la série. C'est vraiment gratifiant. Et même si tu veux en plus y voir des leçons, des matières à réfléchir sur les règles, sur tes désirs personnels, sur le bien, le mal, etc. Il y a à manger, moi, voilà. Je trouve que c'est un film vraiment très intéressant et très intriguant. Et toi, alors, ce sera quoi ta conclusion là-dessus ?
Oui, effectivement, on l'a dit, hein, le film est exigeant. Je pense que je peux rebondir là-dessus pour exprimer un truc connexe. Je vais le comparer un peu au Ghost in the Shell de 95. C'est un film qui, de mon opinion, peut paraître des fois difficile à apprécier au premier visionnage, en fait, de par sa complexité, de par les questionnements, de par le fait qu'il faut vraiment être à l'aise avec ce qu'il y a autour ou à côté ou avant pour vraiment être dans un état d'esprit où tu peux comprendre et apprécier ce que tu vois. Le deuxième visionnage, du coup, m'a beaucoup plus plu, c'est difficile à dire, que le premier. Avoir revu du coup Madoka un peu avant et d'avoir revu la fin de Madoka juste avant, c'était vraiment une bonne chose qui m'a conduit à du coup beaucoup plus m'impliquer et saisir de la portée du film. Et en même temps, du coup, le fait que mon cerveau soit plus à l'aise devant, ça m'a permis de libérer du temps de cerveau pour apprécier ce qu'il y avait sous les rétines, qui en termes de technique, voilà, est complètement dingue. Donc vraiment bonne chose. Je dirais que ce qui est vraiment la plus grande force du film, c'est d'avoir pu se placer comme suite directe à la série, sans être un OAV ou un épisode filler, quoi, tout en étant vraiment surprenant sur où ça se dirige, et pas juste dire « Ah bah tiens, toute fin, scène post-générique de l'épisode 12, je te montre Omura qui continue à se battre, parce que non, le mal n'a pas disparu ». Et on aurait pu croire que le long métrage, ça allait être Omura versus des monstres, quoi. Et le grand bien nous en face, ils sont allés beaucoup plus loin que ça, et c'était vraiment cool. Ce qui me rend du coup curieux pour cet avenir, quand ? On sait pas, mais avenir suite.
Un jour, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait que voilà, le scénariste, c'est toujours le même, le réalisateur sera toujours le même. Il me semble que Shaft s'est aussi dit que c'était eux qui remettaient le couvert, donc a priori, on sait que c'est la même équipe, donc on peut s'attendre à quelque chose de, au minimum, intriguant.
Ouais. Mais la conclusion du film ne nous laisse pas on n'a pas faim, quoi. C'est pas, ah tiens, il y aura une suite et démerdez-vous pour... Si. Il y a une conclusion, quoi. Le film a sa conclusion. On se pose des questions sur ce que de ce monde va donner, mais le film a quand même sa conclusion.
En fait, je pense que c'est un peu comme... la fin de la série, on pouvait se dire bon ben c'est une conclusion et c'est comme ça et c'est pas autrement. Maintenant que j'ai vu comme je te disais au début, maintenant que j'ai vu Rébellion, pour moi je ne peux pas considérer la fin de la série comme une fin satisfaisante, tellement l'implication qui est demandée dans le film est grande, tu vois. Et je me dis que ce sera peut-être même pareil pour la suite, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, du coup, Madoka a fait son truc, Omura a dit « lol no, c'est moi », et du coup, la prochaine fois, c'est Madoka qui va arriver et qui va dire « lol no, c'est moi ». Ou alors, ce sera quelque chose de complètement différent, parce que justement, c'est ce à quoi on s'attend.
Le grand retour des incubateurs de l'espace.
Ah non, pas les chats de l'espace. Je crois que je préfère encore les moutons d'Overlord.
Okay. Juste avant de vous laisser, te laisser dire au revoir à nos auditeurs, un mini mot sur la VF, qui est donc qu'on a un petit peu écouté. Le problème, clairement, je l'avais déjà dit sur la série, en fait, c'est plus un problème d'attribution de voix. Sur des rôles qui sont vraiment pas adaptés, avec des personnes qui sont un peu trop mûres pour des ados, que de la que des problèmes de prestation vraiment, parce que pour le coup c'est en termes d'interprétation, pardon, on voit que ce sont des comédiens qui sont chevronnés, qui font le taf, mais il y a quand même un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on entend.
Ouais, mais ça tu l'avais déjà dit. Tu aurais pu te servir de cette opportunité pour me laisser le confirmer, pour que les gens ne pensent pas que tu es fou.
C'est vrai.
Et que tu t'acharnes. Alors non, ils ne s'acharnent pas. C'est vrai. C'est plus présent, beaucoup plus prononcé sur certains rôles que d'autres, par contre. Voilà. Donc effectivement, en entendant les personnages parler, il y en a où on se dit, tiens, ouais, pourquoi pas. Et puis d'autres disent, oula, mais tu fais quoi sur ce rôle, toi? Tu as 40 ans? Tu n'es pas une poule à Maggie, ce n'est pas possible.
Donc malgré le confort que pourrait apporter une VF par rapport à une VOST, surtout sur un film qui demande d'être très concentré, on recommande quand même de le voir en VOST, et c'est Captain VF qui le dit, quoi.
Ouais. Mais comme tu le dis, avoir une VF agréable à écouter, ça aurait pu nous aider à nous concentrer plus sur ce qui se passe à l'image. C'est comme ça. Très bien, et ben voilà, c'est ainsi que se termine ce 7e déjà épisode hors série du podcast Le Samouraï et la Soubrette. Voilà. En espérant que ça vous ait plu. Au final, dans sa construction, ça pouvait ressembler un petit peu à un épisode canonique.
Voilà, juste titré Spoil to the Max.
Alors déjà, il y a ça, et puis on avait une façon un petit peu différente de l'aborder que d'habitude, donc on avait décidé de ne pas s'enfermer dans le cadre d'un format un petit peu.
Voilà, dites-nous si le côté avec peut-être un peu plus de spoil, plus d'avis de notre part, c'est toujours de l'analyse, mais on a mis un peu plus d'avis, je pense, que d'habitude.
Le film vient de nous secouer très fortement, du coup on a un peu extériorisé micro.
Écoutez, si ça vous plaît, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais une fois de plus, il faudra trouver le bon film qui nous permette.
Il nous faudra la matière. Voilà, très bien. Merci pour votre écoute.
Salut.
À bientôt.